Bonjour Tiffen et à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La peinture est une poésie muette et la poésie, une peinture aveugle, disait Léonard de Vinci. Il faut dire que ces deux grands arts fondamentaux se sont longtemps regardés en rivaux. À la peinture revenait de montrer la beauté, tandis que la seconde se devait de dire l'action. Mais ces catégories paraissent aujourd'hui dépassées et beaucoup d'écrivains ont montré qu'ils pouvaient dire la beauté et même raconter la peinture. C'est l'objet de cette série de le montrer. Elle va nous conduire jusqu'à jeudi. Nous l'avons débuté hier avec Pascal de Thurens qui est revenu pour nous sur l'histoire de ces rapports entre l'écrit et l'image depuis l'Antiquité. Demain, nous serons avec Tahar Benjelloun, écrivain mais également peintre, qui nous parlera notamment de Giacometti. Et enfin jeudi, c'est Yannick Enel qui évoquera le Caravage et l'importance que ce peintre a eu dans sa vie alors qu'il fait paraître chez Fayard son livre « La solitude Caravage ». Et aujourd'hui ?
Quand je ne m'étais pas encore mis à écrire Aurélien, j'avais eu la tentation de reprendre le rêve, fait même avant d'aller voir ce peintre, d'un Henri Matisse roman.
Et bien aujourd'hui, pour parler d'un Matisse tel que le voyait Louis Aragon, nous sommes avec Olivier Barbaran, inspecteur général de l'éducation nationale, mais aussi grand spécialiste d'Aragon dont il a dirigé les œuvres poétiques dans la Pléiade en 2007. Il est également l'auteur d'autres ouvrages sur l'écrivain, comme par exemple Le Paris d'Aragon, en 2016 aux éditions Alexandrine, et il vient par ailleurs de publier le recueil de poésie Un grand instant aux éditions Champvallon. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai attendu depuis 1941 d'en venir à ce livre que voici se formant enfin. Le grand agacement que Matisse montrait parfois du langage employé à son sujet par les critiques d'art m'avait poussé à dire plusieurs choses qui n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Qu'il n'y a pas de langage parlé, écrit de la peinture, que c'est folie de vouloir donner l'équivalent de la chose peinte quand peindre est déjà parler de quelque chose. Je saisis très vite comment Matisse entendait cela et ce que signifiait sur moi cet œil bleu de chasseur. Je compris aussitôt la nature de ce magnétisme que je subissais.
Extrait de Matisse, roman lu par Jacques Weber, extrait lui-même issu d'un documentaire de Richard Dindo. Bonjour Olivier Barbaran.
Bonjour.
Alors depuis hier et jusqu'à jeudi, on se demande ici comment on peut écrire la peinture, ce qui est d'autant plus une gageure que, comme le dit Aragon dans son livre, la peinture c'est déjà un langage. Peut-on rajouter un langage sur un langage, Olivier Barbaran ?
Pour ce qui concerne Aragon, Henri Matisse, roman, est une œuvre qui montre que non, qu'il n'est pas possible de donner un équivalent. Peut-être Aragon l'a-t-il tenté dans certains poèmes consacrés à des peintres, mais tout le défi de cet ouvrage est de parler autour, de parler sur, de parler avec, mais de ne pas parler pour recouvrir la peinture ou pour prétendre en donner un équivalent. Et c'est un extrait très bien choisi. Je me demandais qui était la personne qui prononçait ces mots parce que je ne reconnaissais pas la voix d'Aragon. C'est donc un comédien qui prend ici sa place. Mais je crois que Matisse l'a mise au défi de parler autrement, c'est-à-dire de parler en tournant autour ou en essayant d'expliquer, mais certainement pas de donner un équivalent ni phrastique, ni langagier, ni poétique. Et c'est peut-être ce qui fait le statut particulier de cette œuvre, alors qu'il y a un vrai dialogue des poètes et des peintres tout au long du XXe siècle, là il y a une admiration qui a un peu foudroyé Aragon, qui avait besoin d'être très admiratif pour être foudroyé tout de même.
Quand vous dites Matisse l'a mise au défi, vous voulez dire que c'est Aragon qui s'est mis lui-même au défi à travers Matisse. Matisse n'a pas souhaité qu'on écrive sur lui ?
Je pense que quand on suit le livre et ce qu'il dit de leur rencontre, très vite, Matisse a trouvé qu'il serait intéressant qu'Aragon puisse écrire sur lui, et progressivement, avec cet œil bleu de chasseur dont parle Aragon, il l'a peut-être invité à le faire, et Aragon y a trouvé un intérêt. Ce qui l'a mis au défi, c'est peut-être moins la personne de Matisse que l'éblouissement qu'est pour Aragon cette œuvre. C'est aussi un immense témoignage d'admiration. Là encore, on l'imagine peut-être moins de la part d'Aragon, dont on sait le dialogue possible avec beaucoup de peintres et de peintres dont il pouvait être proche, comme Picasso par exemple. Il y a quelque chose qui le saisit, qui l'étonne au sens presque étymologique, et qui fait qu'il va ne pas écrire sur, ou plutôt qu'il va tenter d'écrire sur, et que le livre sera le récit de la possibilité d'écrire sur cette œuvre.
Donc il y a d'autres peintres qui ont beaucoup intéressé Aragon, Picasso, vous venez de le dire, mais aussi Chagall. Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qu'il souhaitait dire finalement sur ces peintres, selon vous?
J'ai l'impression qu'à chaque fois, comme tout créateur, Aragon essaye de proportionner son propre art à celui de l'art qui lui échappe. Pour Chagall, il respecte aussi d'une certaine façon, par le titre même qu'il donnera à ce qu'il publiera, la suite sur Chagall, la suite de poésie cette fois sur Chagall, qui s'appellera « Celui qui dit les choses sans rien dire ». Il y a donc bien le frottement entre un type de langage et un autre qui ne prétend pas en donner l'équivalence. Avec Picasso, avec Chagall, il y a tout de même un rapport qui est à la fois un rapport de réflexion de ces beaux livres de poésie qui viennent illustrer du poème sur la peinture ou illustrer la peinture par du poème. Chez Aragon, c'est plutôt l'œuvre peint qui se trouve illustrée par le texte poétique. Avec Henri Matisse, à part un poème, très beau d'ailleurs, mais qui parle sur la peinture, il semble qu'Aragon n'ait jamais pu imaginer donner un équivalent à cette pureté de ligne, à cet éblouissement de couleurs, et donc il lui fallait procéder autrement, c'est-à-dire parler autour, parler sur, dire le génie, parce que c'est tout de même un très grand livre d'art qu'Henri Matisse roman, malgré son caractère un peu confus, un très grand livre d'art qui explique, qui expose, qui dit les circonstances, qui raconte ce à quoi il a assisté, mais où l'on sent vibrante en permanence une sorte d'admiration et de confrontation à l'insaisissable par le langage.
Il s'agit toujours pour Aragon de se mesurer artistiquement à un autre artiste, selon vous?
Avec Matisse, il s'agit aussi d'apprendre. Mais il est vrai que, mais c'est vrai je crois de tous les dialogues entre poésie et peinture, ou entre littérature et peinture, on voit bien qu'à chaque fois, les créateurs prennent la mesure de l'écart, et en même temps, dans cet écart, essayent d'attirer à eux ce qu'ils peuvent apprendre, sans doute, de l'autre. Il se trouve qu'avec Matisse, le regard d'Aragon est encore plus intimidé peut-être, plus ébloui que jamais, mais il a plus de sentiments encore que pour d'autres artistes, que le dialogue sera forcément un dialogue à distance, un dialogue qui ne pourra que, oui, circonvenir son objet en tournant autour, et certainement pas en allant frontalement, comme il a pu le faire pour d'autres artistes.
Ça signifie qu'il passait plus haut Matisse que Picasso, par exemple?
C'est difficile à dire. Disons que le rapport de proximité à Picasso se faisait aussi sur un certain type de partage, le partage idéologique par exemple, l'engagement. Matisse lui échappe aussi à proportion de cela, et je crois que c'est ce qui le fascine. Ce qui le fascine, c'est comment quelqu'un a pu se mettre au service de la pureté et de la splendeur, d'une beauté qui paraît indifférente à l'histoire, et Aragon essaie de montrer qu'elle ne l'est pas vraiment, mais en même temps, Matisse sait l'éblouissement. Picasso, Aragon peut y reconnaître son souci de l'histoire, son souci de la souffrance des hommes, peut-être même son dolorisme d'une certaine façon. Là, il n'y a pas moyen qu'il ait prise là-dessus. Il est devant le choc d'une ligne, le choc d'une couleur, et il décide qu'il n'essaiera pas d'en donner l'équivalent.
Qu'est-ce qui relève de l'image dans la littérature et la poésie d'Aragon? Est-ce que c'est un peintre aussi quand il écrit?
Il est vrai qu'il fait des tableaux parisiens, pour parler la langue de Baudelaire, dans ses romans comme dans sa poésie, qu'il lui arrive de donner à voir par la richesse de son propre langage. Cependant, Aragon est fondamentalement un musicien par la capacité à faire des boucles, à tourner, à faire chanter la langue. Peut-être d'ailleurs, n'est-ce pas un hasard si c'est par le biais du dessin, de la ligne, du tracé, de ce qu'il va appeler le signe bouche chez Matisse, qu'il va essayer de trouver des éléments qui soient des éléments dans le dessin qui ressemblent un tout petit peu à l'écriture, tout en se gardant bien de dire qu'il y avait une moindre équivalence. Aragon a un œil pour la description, c'est incontestable. Il donne à voir par le texte, mais il est vrai que tous les équivalents que l'on propose et qu'on a tenté de proposer entre les deux types de langage, il ne souhaite pas les superposer. Il dit même sa détestation d'une sorte de confusion dans les discours esthétiques où le langage prendrait le relais alors que le langage donne un équivalent qui est un équivalent très lointain de ce que les arts plastiques peuvent donner. Il n'est pas de ces poètes qui pensent qu'il y a une superposition entre l'écriture et les arts visuels. Il y a un relais, peut-être une course de relais qui est possible de prendre, où la parole peut revenir pour dire l'enchantement de ce qui parle sans parler.
On est dans deux arts qui sont très différents pour lui.
Oui, profondément différents, mais où il y a quelque chose à apprendre de cette différence plutôt qu'à essayer de la recouvrir.
Ce livre est comme il est, je n'y puis rien. Il y a bien longtemps qu'il m'a glissé des mains et que je le retrouve feuillet par feuillet dans la confusion des années, que je le ramasse, le rameute à chaque coin de rue pour le laisser au premier tournant tomber, m'échapper, s'éparpiller. Et soudain, j'en rattrape une page et m'étonne. Qu'est-ce que c'est? Où cela se casait-il? Dans quel chapitre? Quel moment du livre et du monde? Quelle heure? Il y a pourtant, dans la profondeur des phrases, la maladresse du murmure, je ne sais trop quel calme écho lointain d'un homme, on dirait qu'il s'est assis dans le jardin sur un banc de pierre et le jour déjà fraîchit. Il faut ramener sur les épaules une chose de laine qui en avait glissé, beige, qui sait où, blanche encore, à cette lueur d'hiver juste après le crépuscule. Ce livre est comme il est, je n'y puis rien. Peut-être parce que l'homme s'est tu que je n'en puis entendre la voix, qu'il a cessé d'être présence pour devenir question. Questions au pluriel.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cette archive de Louis Aragon, lisant un extrait de son livre Matisse, roman. Alors il faut en parler justement, Olivier Barbaran, de ce livre, dire qu'il a été publié en 1971 chez Gallimard en deux volumes, on peut le lire aujourd'hui en un seul volume dans la collection Quarto, toujours chez Gallimard, évidemment pas en couleur, malheureusement, parce qu'il faut rappeler qu'au départ c'est un livre extrêmement luxueux qui proposait des reproductions magnifiques de beaucoup de tableaux de Matisse. Qu'est-ce que c'est que ce livre très étrange? Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, Aragon vient de le dire avec cette voix que cette fois-ci j'ai reconnue, légèrement pincée, nasillarde et en même temps délectable à mes yeux. Ce livre, dit-il, ne ressemble à rien qu'à son propre désordre. Et il est d'abord une entreprise d'un Aragon qui, les années passant, devient de plus en plus intéressé, cependant, par les arts plastiques. Il l'a toujours été, ses écrits sur l'art sont considérables. Mais il faut reconnaître que cela va infuser sa propre pratique jusqu'à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la transformation de son propre appartement de rue de Varennes en un immense collage de papier, de textes, d'images et de photographies.
Alors, le collage, c'est vraiment une pratique de Matisse.
C'est une pratique qu'il a beaucoup réfléchi depuis au moins Hofmeister et puis le début des années 20, mais qu'il retrouvera effectivement tout à fait ébloui encore une fois chez Matisse. C'est un livre qui, effectivement, tend dans le moment où Aragon va beaucoup, beaucoup écrire sur les arts visuels, dialoguer avec eux. Il y aura donc le Chagall des années 70. Il y aura aussi beaucoup, beaucoup de poèmes du dernier recueil d'Aragon, Les Adieux, écrits dans les années 60-70 sur des peintres, maçons, Picasso, bien entendu. C'est un livre qui essaye, comme toutes les tentatives d'Aragon, d'être l'histoire de sa propre confection et donc l'histoire de la propre vie d'Aragon au regard de Matisse ou à la lumière de Matisse, pourrait-on dire. Puisqu'il est composé comme suit, Aragon rencontre Matisse en 1941, il en parlera beaucoup, fin décembre 41. Il écrira toute une série de textes, parfois de commandes, parfois de préfaces, parfois d'accompagnement, parfois d'articles critiques pour une exposition jusqu'à l'éloge funèbre dans l'Humanité de 54 à la mort de Matisse. Et tous ces textes sur Matisse donnent lieu pour Aragon à la construction d'un gigantesque labyrinthe où, comme toujours, l'enjeu matissien est réel. Enfin, on apprend beaucoup de choses sur Matisse à lire ce livre, mais l'impossibilité de la construction de ce livre, les commentaires, les ajouts, les parenthèses, les ajouts de 68, de 69, de 70, racontant le livre se faisant, lui donne une dimension labyrinthique que multiplie encore le fait que Matisse a parfois commenté les remarques d'Aragon, et Aragon prend un soin tout particulier à mettre en note les remarques de Matisse sur ce qu'il avait dit, puis à mettre une note lui-même commentant la remarque de Matisse. Et donc, ce livre raconte aussi l'histoire de sa propre architecture, ou plutôt l'histoire de sa propre impossibilité, puisque beaucoup de prises de parole d'Aragon sur Matisse n'ont pas donné lieu à ce livre qu'il rassemble tardivement, dans un geste qui sera peut-être celui d'Aragon autobiographe en permanence dans ses dernières années. C'est le même geste pour l'œuvre poétique complète d'une certaine façon. Avec ses propres œuvres poétiques, Aragon va construire un monument où il mettra ses œuvres plus le commentaire. C'est exactement l'œuvre poétique, sauf que c'est l'œuvre poétique de Matisse. Et c'est à l'occasion de Matisse qu'Aragon essaye de penser aussi sa propre existence, son propre rapport à Matisse, et peut-être reconfigure un certain nombre de choses fondamentales chez lui.
Donc il y a des textes qui ont été écrits entre 1941, hein, c'est le texte le plus ancien, et 1965. Et dans un deuxième temps, il y a donc les commentaires dont vous parlez à l'instant, les notes inédites qui sont, elles, rédigées entre 1967 et 1970. Donc on le voit bien, c'est un livre au long cours. Est-ce que c'est le même Aragon qui écrit en 1941 et celui qui écrit les notes en 1970? On peut se dire que, évidemment, non. Il y a plusieurs narrateurs dans ce livre, finalement?
Évidemment non, et évidemment oui. Enfin, je crois que les deux peuvent se dire. Évidemment non, parce que, à l'occasion donc de Matisse, et d'un Matisse qui justement est un peu inattendu, au point d'ailleurs d'avoir offusqué la critique américaine, ne comprenant pas comment la représentation qu'il se faisait d'un poète communiste pouvait s'intéresser à cet art de Matisse. Il est un peu inattendu au regard des plus évidents Picasso ou des artistes du temps du surréalisme. Et évidemment oui, parce que d'une certaine façon, ce qu'Aragon rencontre en 41, c'est une grande admiration portée depuis longtemps. Et ce qu'il demande à Matisse en 1941, c'est justement d'échapper à ce qu'on croit être la représentation d'Aragon. Par exemple, nous sommes en 41, décembre 41, quand ils se rencontrent, en pleine guerre, en plein moment où Aragon lance une poésie de la résistance qui semble très très engagée, pour prendre un mot un peu simple. Et Matisse est à la fois en France, ce qu'Aragon salue, puisque rester en France est pour lui un geste déjà patriotique, mais en même temps, il est très très loin de toute dimension historique de la peinture. Or, l'admiration d'Aragon en 1941 est sincère pour cet homme qui place son souci esthétique ailleurs que dans l'efficacité politique, et elle demeurera semblable en 1971. Simplement, des choses ont changé entre 41 et 71. La proximité d'abord de 41 à 54 des deux créateurs qui se connaissent de mieux en mieux. La place d'Aragon également, et la proportion d'Aragon au regard de sa propre vie qu'il essaye de rejouer et de revivre en réfléchissant au passage des ans sur les papiers jaunis qu'il rassemble.
À quel point peut-on considérer que Aragon est un spécialiste de Matisse? Parce que ce livre est... On va revenir sur beaucoup de choses que vous avez dites, Olivier Barbaran, mais c'est une espèce aussi d'autobiographie. Ça n'est pas que une monographie, ça n'est pas que un livre sur Matisse, même si ça l'est peut-être aussi. Mais est-ce qu'il est, disons, aussi spécialiste de peinture que, par exemple, Malraux peut l'être, même s'il reste, Malraux aussi, d'abord un écrivain?
Peut-être est-ce l'admiration qui parle ici, et sans doute ai-je une représentation faussée par mon admiration. Il me semble que Aragon se fait aussi l'historien de Matisse, et que de ce point de vue, parmi les créateurs qui ont parlé sur des œuvres, Henri Matisse-Roman est un geste d'admiration qui va jusqu'à l'archive, jusqu'à la datation précise, jusqu'au rétablissement des faits, et il donne aussi beaucoup la parole à Matisse, dont il cite des lettres, des correspondances, peut-être plus que certains créateurs qui enveloppent peut-être, c'est la vision que je me fais de Malraux, enveloppent peut-être davantage de leurs propres préoccupations esthétiques à eux le discours qu'ils tiennent sur les artistes. Aragon ici prend soin de donner la parole à Matisse et de proportionner ensuite son jugement esthétique ou sa réflexion esthétique, mais au regard d'une parole de Matisse qui est comme très respectée, comme elle le serait sans doute par un spécialiste plus que par un écrivain.
Donc c'est aussi un document qui peut nous servir à vraiment comprendre la peinture de Matisse.
Il me semble, enfin il dit des choses très justes sur le trait, sur le dessin et sur les dates du passage au dessin, au collage, oui.
À chaque fois que je venais, ou presque, de nouveaux dessins, comme des tentations, un appôt, lui me regardait venir. Voilà qu'il m'avait fait le témoin. Élu, je veux dire. Le témoin de ses naissances. J'étais arrivé là-dedans en plein milieu. que Matisse me fait vraiment le témoin de ce qui se passe dans son repère des mille et une nuits. Ici, le conte de Noël change de caractère. Le roman commence. Ce que Matisse nous apprend, ce que ce dessin sans rature dit, en marge du texte d'insomnie, c'est l'infinie complexité d'expression du trait pur, de ce semble hasard qui mène la main du peintre et qui est écriture à chaque point de sa course, comme à chaque espace laissé. Ceci est très mal dit, mais n'en tire pas moins son importance. Que le dessin est écriture. Voilà ce que l'école a depuis longtemps oublié et que nous réapprend avec la douceur, avec la grandeur française, le maître de Simiez, Henri Matisse, notre orgueil.
Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Henri Matisse, roman, livre d'Aragon. Avec vous, Olivier Barbaran, on n'a pas encore vraiment dit comment se passe cette rencontre entre les deux hommes. À Nice, vous avez dit que la rencontre avec la peinture, elle est bien antérieure, elle date de 1913, mais la rencontre physique, elle se passe pendant la guerre, dans ce magnifique hôtel, ce palais Simiez de Nice, où Matisse continue son œuvre dans des conditions qui sont à la fois bonnes, mais qui sont aussi difficiles parce qu'il est malade. Et tout cela est raconté, évidemment, dans le livre Matisse Roman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Si Henri Matisse s'appelle Roman, c'est aussi parce qu'il raconte. Et ce préambule est absolument prodigieux. Enfin, il est absolument superbe. Aragon revient à ce moment de décembre 41, fin de l'année 41, où dans le désarroi de la France, s'étant installé à Nice après avoir été démobilisé et avant de passer à la clandestinité, ils vont avoir une période où Aragon et Elsa Triolet, vivant aux Ponchettes, vont déployer une vraie activité de littérature non clandestine, encore autorisée mais de contrebande, et il y aura la possibilité pour Aragon d'aller voir un peintre qu'il admire depuis très très longtemps, et pour que le phénomène soit encore plus grandiose du point de vue romanesque, même si c'est une vérité historique, elle est traitée quand même sur un mode romanesque, il va enfin rencontrer la grande admiration Matisse dans une ascension. C'est une ascension dans le tramway ou trolley qui monte depuis les Ponchettes au bord de la mer jusqu'à Simier, où se trouve Matisse, dans une petite pluie et un crachin. Ce qu'Aragon ne dit pas tout à fait, c'est que cette rencontre tombe à pic à un moment, je crois, et je pense que Matisse en est le signe très important chez lui, à un moment où il est en mesure, grâce aux défis historiques, de dépasser certains sectarismes qu'il a pu avoir au début des années 30 et qu'il a appris à dépasser, mais qui se réalisent vraiment. L'enjeu majeur d'Aragon au moment de la résistance, c'est de faire résistance avec tous ceux qui voudront bien la faire, et donc de dépasser peut-être des clivages qui sont d'opposition entre poètes engagés ou pas engagés, communistes et pas communistes. Enfin, Aragon est celui qui a écrit que l'un fut de la Chapelle et l'autre aussi des Robas, ou qui va l'écrire. Et Matisse s'inscrit, je crois, aussi dans ce sens-là. Y avait-il une volonté, je ne voudrais pas exagérer le caractère un peu machiavélique d'Aragon, mais y avait-il une possibilité de trouver chez Matisse quelqu'un qu'on pouvait mettre dans la revue de Pierre Segers, quelqu'un qui pouvait donc donner des dessins pour défendre la France? Il n'est pas impossible qu'Aragon y ait pensé.
En tout cas, le mot de France revient systématiquement sous la plume d'Aragon, surtout dans cet écrit, le premier de 1941. On a l'impression que Matisse, ça devient, en temps d'occupation, la continuation de la France.
Tout à fait, c'est le rôle qu'il lui fait jouer, au point d'ailleurs qu'il écrit Matisse en France avec des traits d'union, comme on écrit, je ne sais pas moi, Marc en Barreuil. Matisse en France, ça devient presque un lieu, c'est le lieu de la France. Ça a donné d'ailleurs lieu à des irritations. Il y a un très beau pastiche qui est assez amusant, fait par des continuateurs des surréalistes, dans une revue qui s'appelle Matisse, mon drapeau par Aragon, et c'est un pastiche pour donner l'impression que le bleu-blanc-rouge d'Aragon colore un peu trop Matisse et l'enrôle un peu dans un rôle qui n'est pas le sien. Cependant, deux choses méritent d'être, si on dépasse un peu cette vision, qu'il ne s'agit pas d'accrocher une cocarde à Matisse. Mais il est certain que le fait que Matisse soit resté alors qu'il aurait pu partir, même s'il n'est pas parti pour des raisons médicales, paraît à Aragon un enjeu important. Et que derrière peut-être les nécessités ou les contraintes historiques, il y a quelque chose qui le saisit et qu'il saisit franchement, sincèrement et qui se retrouve tout au long de ce grand livre, c'est... Peut-être qu'un jour, au-delà de l'histoire atroce que nous avons vécue, on dira le siècle de Matisse, comme on dit le siècle de Botticelli. Et il faut évidemment faire un pas de côté, il faut rentrer dans la logique historique d'Aragon, mais de la même manière que nous ne savons plus très bien quelles étaient les horreurs et les massacres qui existaient dans les républiques florentines ou dans la ville de l'Italie et que nous avons la splendeur de ces tableaux, il lui semble qu'il y a une résistance, mais au-delà de la circonstance politique, dans le fait de continuer à peindre à Nice quand on est Matisse.
Alors évidemment, on peut le voir de cette manière-là, et que l'on soit d'accord ou pas avec cette façon de voir, c'est tout de même très arrangeant de le voir comme cela quand on a envie de défendre un peintre qui est un peintre non pas bourgeois, mais enfin qui n'est pas non plus un peintre engagé du côté des prolétaires, par exemple, qui n'est pas un peintre communiste, et puis surtout un peintre qui décrit la beauté, qui décrit le calme, qui décrit la sérénité, et dans la peinture duquel il n'y a aucun engagement. Et alors ça, évidemment, pour un Aragon très engagé au Parti communiste, ça doit poser un certain nombre de problèmes.
De problème, je ne sais pas. Aragon a toujours très bien vécu avec ses contradictions. Il est certain qu'il va écrire, peu de temps après, un texte qui s'appelle « Contre la poésie pure ». Bon. Et donc, une certaine forme de pureté de Matisse pourrait lui faire problème. L'admiration est telle qu'il s'en sort, s'il y a besoin de s'en sortir en tout cas, qu'Aragon conçoit et comprend que peut-être il est d'autres manières d'envisager ce qui serait le rôle de l'artiste. Et c'est vrai que cet artiste dégagé d'une certaine façon d'un horizon historique le fascine et qu'il l'admire sincèrement. Alors après, il se débrouille comme il veut, comme il peut peut-être, pour résoudre des contradictions intimes. Je crois qu'Aragon montre régulièrement qu'il a été beaucoup moins sectaire qu'on le prétend. Et dès la période de la Résistance, il fallait laisser venir la totalité des artistes de talent. Et la République des talents est une république aristocratique. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de vous qu'il est meilleur que le véritable talent. Là, l'évidence du génie l'oblige ou le contraint ou le rassure et lui prouve qu'il y a une puissance de l'art plus grande peut-être que la puissance du simple engagement. Il fait de Matisse un maître. Et en même temps, je crois que la dimension française n'est pas tout à fait fausse non plus si on y réfléchit bien. Il est certain qu'il y a dans la netteté, la pureté du trait, dans le rapport qu'il établit à juste titre, je crois, de Matisse et de Chardin par exemple, quelque chose qui en fait un peintre français en effet, s'il y a une esthétique française.
Mais là encore, on pourrait se demander, quand on est engagé dans l'international communiste, pourquoi il est si important de définir la nationalité d'un peintre. Là encore, on trouve Aragon confronté, mais vous venez de le dire, hein, il assume ses contradictions.
Oui,
à précisément une contradiction.
Et puis, sont véritablement des contradictions, sont des contradictions par rapport à la représentation qu'on se fait d'Aragon, peut-être. Aragon a toujours défendu la France. Il l'a défendu au point que ses anciens amis croyaient qu'il était devenu d'un nationalisme droitier ou imbécile. Sa préoccupation en 41, c'est de montrer qu'il existe dans un pays piétiné, intellectuellement, culturellement, censuré, qu'il existe un art vivant et de grande valeur. Matisse, de ce point de vue, est un assez bon argument.
Si on regarde toute la peinture de Matisse, il y a une façon extraordinaire chez lui de dominer non pas seulement les ennuis quotidiens, mais les grandes douleurs qui pouvaient être les siennes. Puisqu'enfin, à l'époque où je l'ai rencontré, il y avait 10 mois qu'on l'avait opéré, une opération qui faisait de lui un infirme. Et aussi, nous étions en plein dans le moment le plus noir de l'occupation où la plupart des gens doutaient de la possibilité d'une issue favorable à notre pays. Au milieu de cela, la peinture de Matisse prenait un caractère extraordinaire de déclaration d'espoir, du changement.
compagnie des auteurs. On comprend mieux, Olivier Barbaran, la position d'Aragon en l'écoutant dans cette archive. L'engagement de Matisse, en effet, c'est un engagement pour la joie aussi. C'est un engagement pour l'espoir. Et c'est une forme de courage qui est aussi un courage personnel, puisque Matisse est atteint par la maladie. Et néanmoins, il continue de produire de l'optimisme, si l'on peut dire. La douleur de Matisse, dont il parle, c'est aussi, évidemment, et là, on en vient davantage à l'aspect autobiographique, finalement, de ce texte, la douleur propre d'Aragon, qui publie ce texte en 1971, c'est-à-dire un an après la mort d'Elsa Triolet, son amour de toujours. À quel point ce livre, Henri Matisse Roman, est-il une autobiographie? À quel point est-ce un miroir que Aragon se tend à lui-même quand il parle du peintre Olivier Barbaran?
Ce qu'il y a de tout à fait fascinant, c'est que dans le cadre même de la rencontre, d'ailleurs, les deux créateurs, d'une certaine façon, se sont renvoyés en miroir des choses. D'une part parce qu'Aragon a écrit sur Matisse, d'autre part parce que, et Aragon prend bien soin de les montrer, Matisse a dessiné Aragon tout en disant à la fois qu'il n'avait jamais su le cerner, ce qui me paraît une chose intéressante, qu'Aragon assume aussi ce caractère un peu protéiforme et multiforme de sa propre identité.
Mais vous, quand vous regardez les portraits d'Aragon par Matisse, vous avez le sentiment de comprendre quelque chose d'Aragon que Matisse aurait vu?
Son extraordinaire plasticité, ses portraits juxtaposés d'ailleurs, dans la mise en page qu'Aragon, parce qu'Aragon a pris soin aussi de faire la mise en page. Enfin, je pense que les maquettistes de Gallimard devaient devenir fous, mais il a exigé énormément de choses pour cette édition qui est sublime, enfin qui est superbe, splendide, avec un travail sur la couleur, mais aussi sur la disposition, tout fait sens là-dedans. Mais il a pris soin de les disposer ensemble, tous ces dessins qu'il a rencontrés sur les murs de Matisse, un jour où il est venu le voir et où Matisse lui avait fait la surprise de lui montrer tous les portraits qu'il faisait de lui.
Il y a beaucoup de photos de l'atelier aussi qui sont très belles dans ce livre.
Splendide, enfin vraiment, il y a des photos extraordinaires, des objets aussi avec lesquels travaillait Matisse. Il y a une illustration vraiment superbe. Pour ce qui est de l'identité, donc chacun a essayé d'apporter quelque chose à l'autre, comme dans tout dialogue du créateur. Oui, pour Aragon, il est certain que cette ombre... qu'il prend soin de mettre juste en dessous de la lumière et de la splendeur de Matisse. C'est l'ombre, pour Matisse, de sa maladie, de l'âge. C'est l'ombre aussi du sort de ses enfants, de sa fille résistante. Pour Aragon, toutes ces ombres renvoient aussi aux déchirures personnelles d'Aragon, qui sont nombreuses, à la défaite historique qui le traverse également, et surtout au fait que les années 67, 68, 69, et finalement l'achèvement du livre 70, se font au moment de la maladie et de la mort d'Elsa Triolet. La dernière page, de ce point de vue, est superbe et dit peut-être la réponse.
Alors justement, je voudrais vous en faire une citation. « Ainsi s'achève, sur cet éclatement, ce bouquet d'artifices, sur ce feu de signes végétaux, ce livre que tu ne liras jamais, Elsa, et je me demande pour qui je le laisse aujourd'hui publier, ce livre dont tu n'auras guère connu ça et là que les morceaux parus, car tu ne voulais plus connaître ce que j'y ajoutais que lorsque ce serait fini, que ce serait enfin un livre, que ce serait devenu un livre. Et oui, c'est fini, c'est bien fini. Dieu, pourquoi, pour qui écrire ?»
Oui, cette page qui est la dernière fait suite à une double page extraordinaire d'un collage multicolore absolument splendide, un bouquet, un feu d'artifice de la part de Matisse. La seule réponse à apporter au néant, elle est peut-être effectivement dans le fait de décorer l'horreur, dans le fait de donner de la lumière. Et je crois que ce qu'il apprend sincèrement, quoi qu'on en dise, c'est cette possibilité que des peintres de la joie ou du présent peuvent opposer à l'atrocité d'existence.
En quoi aussi est-ce une autobiographie qui pourrait ne pas être toujours une autobiographie de la tristesse? Du côté de la tristesse, on pourrait rajouter aussi les références à son ami et poète Alain Borne qui s'était tué en voiture et dont il est question aussi dans Henri Matisse Roman. Mais est-ce que ça raconte autre chose d'Aragon?
Ça raconte beaucoup de choses d'Aragon jusqu'à... je me suis toujours demandé si Aragon ici... jouait avec nous, ce que je crois, ou s'il y avait une sincérité. Mais à deux reprises dans Henri Matisse Roman, Aragon s'interroge sur son propre père. Une fois pour dire que Matisse, né en 69, 1869, aurait bien plus eu l'âge d'être son père que son propre père né une génération précédemment. Et une autre fois, à propos de la chapelle, hein, pour rappeler que son père avait expulsé les religieux de l'enseignement. Et que
pour la chapelle de Vence peinte par Matisse.
Pour la chapelle du Rosaire, oui, pour montrer là encore qu'Aragon, à qui on que l'on soupçonne comme communiste de détester la chapelle, dit que son admiration est pour la chapelle et pour la position de Matisse. Et à ces deux reprises, Aragon en vient à nous inviter, soit lapsus tout à fait contrôlé, souhaitant jouer avec le lecteur, mais à l'idée qu'il y a une sorte de paternité de Matisse. Et puis le miroir devient encore plus complet quand on pense que quand Aragon rencontre en 41 Matisse, Matisse a à peu près l'âge qu'a Aragon quand il écrit sur Matisse à la fin des années 60 et au début des années 70. Une sorte de superposition, de filiation possible, de père rêvé, de père créateur rêvé, qui en dit beaucoup aussi sur Matisse aurait pu être ce qu'Aragon aurait été si Aragon avait su répondre à la tragédie du siècle autrement qu'il n'y a répondu. Lui, s'étant s'y engageant, l'autre s'étant la surplombant. Mais je crois qu'il y a cette dimension-là qui se joue ici.
Olivier Barbaron, vous restez avec nous. On va reprendre cette conversation sur Aragon et son livre Henri Matisse roman au cours d'une semaine consacrée au lien entre peinture et littérature dans la compagnie des auteurs. Mais pour l'heure, c'est le moment de marquer une pause avec la chronique d'Étienne de Montetti.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Vous venez aujourd'hui nous parler de l'écrivain italien Eri De Luca qui publie Le Tour de l'Oie chez Gallimard dans une traduction de Daniel Valin.
Oui, De Luca est un écrivain familier des lecteurs français depuis le succès de romans comme Monte d'Idio ou de son récit Le Noyau d'Olive. Et il revient en librairie ces jours-ci avec un livre dense qui a pour titre Le Tour de l'Oie. De Luca est un homme singulier qui se décrit ainsi, révolutionnaire, ouvrier, émigré. Ces mots le résument en effet puisqu'il a été militant politique, travailleur manuel et également engagé dans l'action humanitaire en Yougoslavie. Mais il n'épuise pas cependant cette personnalité sincère et complexe. En effet, De Luca a une vie aventureuse, romanesque, et tout autre que lui en aurait tiré des mémoires qu'on imagine abondants, avantageux, célébrant une ère où l'engagement politique avait un sens, où l'humanité était guidée par la certitude qu'elle pouvait faire l'histoire. Bref, il se serait donné le beau rôle. Pas De Luca. Son genre, c'est le genre sobre, retenu, pudique. Il le dit d'ailleurs dans Le Tour de l'Oie. Je ne suis pas un professionnel du genre scénariste qui prête son talent à une histoire. Alors, à l'heure de se retourner sur sa vie, il offre au lecteur un court livre, écrit sous une forme quasi psalmique. Oui, un psaume, un récit tout en éclats, fragments de vie, bribes de sagesse. Le titre, Le Tour de l'Oie, fait référence à un jeu où le hasard a son importance. À l'en croire, tout est survenu parce qu'il devait en être ainsi. Que sera, sera. Le livre se présente comme un dialogue entre Eri De Luca et le fils qu'il n'a pas eu. Mais ce pourrait être aussi une conversation entre lui, l'écrivain, et un de ses personnages, une créature de papier. Ce serait une allusion au mythe de Pinocchio, qui est présent au début du récit et qui nous aiguille sur cette voie possible.
Donc c'est une forme dialoguée alors?
Oui, un dialogue, mais en réalité un soliloque, aux accents étranges, en forme de confession, un mea culpa prononcé à voix basse. Et comme toutes les confessions, surtout celle d'un homme qui est un lecteur quotidien de l'écriture sainte, en hébreu s'il vous plaît, elle commence par un sérieux examen de conscience. De Luca égrène sa vie, ou plutôt il lève le voile sur quelques épisodes de celle-ci, sa jeunesse à Naples, son engagement politique à l'extrême gauche, sa relation à la langue. Il y a la langue de l'intime, le napolitain, et la langue de l'universel, qui est celle de l'écriture, l'italien. Le livre recèle aussi quelques morceaux de bravoure, comme si l'histoire de cette femme désespérée parce qu'elle est victime d'un voleur à la tire, qui lui dérobe son manuscrit de poème. Et la Rolex que le malfaiteur a laissé tomber pendant son forfait ne la console pas de cette perte irréparable. Qu'ai-je donc fait en réalité, nous murmure l'écrivain. L'amour, les lâchetés, les faux pas, la révolte, et le démon de son cœur qui lui suscite tout le temps, à quoi bon? Un homme s'interroge, il le fait sans forfanterie, on sent qu'il peine à s'abandonner, qu'il s'accroche aux mots, parce que ceci le protège. Les phrases sont brèves, rauques, De Luca parle de lui, mais aussi d'histoire contemporaine. les années de plomb en Italie et de littérature. Il le fait avec beaucoup de liberté. Par exemple, il assume de ne pas avoir lu ou même refusé de lire Joyce, Musil, Sartre, Brecht. Et son verdict est clair. Je crois que seul Borges est obligatoire.
Alors, est-ce que l'exercice est réussi finalement, Étienne ?
Oui, en tout cas, il lui ressemble. Car c'est tout lui, ses jugements abrupts. De Luca est singulier, obstiné, ramassé comme un animal prêt à bondir. En effet, il est alpiniste chevronné. Il explique joliment que cet exercice d'alpiniste, c'est-à-dire du tâtonnement, du toucher, l'a prémuni contre les idées, les idéologies néfastes. Sa prose est le produit de cet affrontement avec une matière brute, lui-même. Le Tour de l'Oie est un récit magnifique.
Le Tour de l'Oie, traduit donc de l'italien par Daniel Vélin, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup Étienne de Montetti, directeur du Figaro Littéraire, notre partenaire. À très bientôt. Comment des écrivains ont regardé des peintres et ont écrit sur eux, c'est le sujet pardon, de notre semaine dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Barbaron. Il évoque pour nous le livre Henri Matisse, roman de Louis Aragon. Matisse qu'on écoute à présent en archive.
C'est parce que depuis très longtemps, je voudrais synthétiser tout mon apport. Et alors, c'est trouvé cette occasion. J'ai pu faire en même temps de l'architecture, des vitraux, de grands dessins muraux sur des céramiques, et réunir toutes ces choses-là de façon à avoir une unité parfaite. J'ai même fait une flèche à cette chapelle qui a 12 mètres de haut. J'ai fait une flèche qui a 12 mètres, plus de 12 mètres, et qui n'écrase pas une flèche en fer forgé, et qui n'écrase pas la chapelle, au contraire, qui lui donne de la hauteur. Parce que cette flèche, je l'ai faite comme un dessin que je ferai sur une feuille de papier, seulement c'est un dessin qui monte. Par exemple, lorsqu'on voit une chaumière qui fume vers la fin de la journée, on regarde cette fumée qui monte, et on n'a pas intention du tout qu'elle s'arrête. C'est un petit peu le sentiment que j'ai donné dans ma flèche.
Ce qui évoquait à l'instant sa chapelle avance, alors que dans son livre, Aragon raconte justement l'idée de cette chapelle, Olivier Barbaron, et il y dit même son hostilité. Il ne va pas le cacher d'ailleurs à Matisse, qu'il n'est pas tellement pour finalement l'idée de cette chapelle.
Il raconte surtout comment, notamment le spécialiste de l'art moderne, Monsieur Barr, je crois, un Américain, a décidé que sous prétexte que Aragon était communiste, Aragon était absolument hostile à la chapelle. Et ça lui permet de le démentir. Aragon finit par comprendre que cette chapelle, c'est, comme il le dit très bien, une sorte de nouveau livre pour Matisse, qui a beaucoup travaillé sur les livres quand il illustrait les poètes, mais un livre en grand format et un livre de grande composition. Et Aragon va même jusqu'à dire que tout l'art de Matisse s'y reflète. Donc l'hostilité est peut-être davantage dans ce qu'on imagine qu'Aragon aurait dû dire que dans ce qu'il a dit, et il n'était pas du genre à donner des conseils à Matisse. Il y a eu une dispute en revanche entre deux grands peintres. Picasso et Matisse se sont beaucoup disputés à propos de cette chapelle. Aragon explique que peut-être Picasso n'est pas seulement communiste, mais il est espagnol, et que le rapport à une certaine forme de cléricalisme est différent, et d'anticléricalisme est différent pour l'espagnol qui était Picasso et pour le français qui était Aragon.
Donc Aragon faisait le lien peut-être entre Matisse et Picasso ?
Je ne suis pas sûr qu'il soit parvenu, malgré sa force, à les réconcilier sur ce plan. Ils ont été aussi de grands rivaux et de grands amis à la fois, mais l'hostilité a davantage été de la part de Picasso. Ce qu'Aragon en montre, c'est qu'il n'a pas suivi ses travaux, mais qu'il le voit bien comme ce qu'elle est. Hein. Cette chapelle est, alors je le dis aux auditeurs, si jamais ils ne sont pas allés la voir, cette chapelle est un lieu de véritable révélation esthétique. Enfin, sans m'immiscer entre les deux grands génies, elle compte pour moi énormément. Et je crois que sans Henri Matisse roman, je n'aurais pas vu à quel point cette chapelle est effectivement l'aboutissement de l'art de Matisse, en ce que elle est une réflexion sur la lumière, sur le dessin, sur la pureté du trait, et elle donnerait envie de croire, si jamais, comme moi, on était mécréant, tant la croyance devient devient une joie, une profonde joie grâce à lui.
Alors justement, on a l'impression qu'avec ce livre Henri Matisse roman, Aragon ouvre à des gens, peut-être comme vous, hein, Olivier Barbaran, des horizons. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a écrit pour un public qui justement n'était pas a priori un public qui regarderait Matisse? Et je pense de nouveau hein, au public des adhérents du Parti communiste de l'époque, dont certains regardaient sans doute Matisse, mais peut-être que d'autres avaient une prévenance à son endroit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait consciemment un travail d'éducation au regard?
Oui, et depuis le début, hein, puisque si on y réfléchit, l'apologie du luxe, mot scandaleux au regard d'une...
D'ailleurs, le livre lui-même est très luxueux, on l'a dit au
Absolument,
début de l'émission, il n'est pas pour tout
Aragon le monde. N'a jamais manqué de dire son goût pour le luxe, et pas seulement dans les années 70, bien avant. Et l'apologie du luxe est un des écrits qu'Aragon, dans les années 40, fait, 46 je crois, fait pour Matisse. Donc il dit bien dans les années 40, à un moment quand même de raideur idéologique assez forte, au sortir de la guerre, il dit bien à quel point il faut apprendre à regarder cela. Alors, l'a-t-il fait pour un public précis, je ne suis pas sûr. Que Matisse ait servi Aragon en permanence à rappeler l'ouverture esthétique qu'Aragon a toujours défendue, en tout cas dès qu'il est sorti d'un léger sectarisme de ses débuts et d'un Pétran, mais qui a été quand même le grand apport d'Aragon à son propre parti. La nécessité de l'ouverture culturelle, le refus de la fermeture idéologique, la reconnaissance du talent d'œuvres qui sont éloignées politiquement ou qui ne sont pas du tout politiques, c'est l'apport d'Aragon à son parti. Et donc, de ce point de vue, oui, Matisse occupe une place assez importante, à côté d'autres auteurs, revendiquer Barrès quand on est de gauche comme Aragon, c'est aussi ça donne aussi le même sens. Il n'empêche que Matisse est le lieu par lequel Aragon proportionne aussi ou récapitule son propre apport et les propres prises de parole qu'il a faites, non sans rappeler d'ailleurs que parfois elles déplaisaient. Il y a cette fameuse anecdote dans le livre, c'est tout à fait amusant, d'une conférence prononcée en 46 à la Sorbonne et où il est interrompu à cause de ses digressions, mais on sent que Aragon n'a pas aimé être interrompu au point qu'il recommande le fait d'avoir été interrompu et qu'il nous force à lire tout le texte de la conférence qu'il n'a pas pu prononcer. Donc il y a la volonté de dire l'ouverture culturelle et l'ouverture esthétique qui a quand même été la sienne depuis plus longtemps qu'on ne l'imagine.
Est-ce que Matisse a rendu Aragon plus près de Dieu en peignant son paradis sur les murs de la chapelle de Vence?
Alors il y a un long développement dans le chapitre consacré à la chapelle du Rosaire qui concerne aussi l'hypothèse de la foi de Matisse. Aragon finit par dire qu'il ne sait pas et qu'il n'a pas eu de confidence sur la foi de Matisse. Il se contente de citer...
Il n'y a de confidence sur rien, parce que Matisse ne se confiait pas de toute
Absolument
façon.
Absolument pas. En revanche, il cite cette sublime phrase « Croyez-vous en Dieu? Oui, quand je travaille ». Que je trouve absolument génial de la part de Matisse, à la fois si on la prend dans son sens le plus prétentieux et en même temps si on la prend dans le sens le plus humble, qui est au contraire l'aide de quelque chose de plus fort que soi quand on est dans un processus créateur. Est-ce qu'Aragon est allé vers la foi? Je ne le crois pas. Est-ce que Matisse lui-même croyait? Je n'en sais rien.
S'il y a aussi quelque chose qui passionne beaucoup Aragon quand il va dans cet antre qu'est l'atelier de Matisse, on sent qu'il est en effet très très intimidé, c'est le rapport que Matisse entretient avec les modèles. Est-ce que vous avez l'intuition de la raison pour laquelle c'est pour lui si important?
Oui. Il y a deux apports essentiels pour moi dans Henri Matisse roman qui sont très beaux, avec de très belles photographies. C'est ce qu'Aragon a appelé la palette d'objets, c'est-à-dire effectivement une étude très précise de ces objets par lesquels l'inspiration de Matisse se fait. Qu'il s'agisse d'un pot à tabac, qu'il s'agisse de certains pichets, de certains vases, ou même de ce fauteuil rocaille extraordinaire pour lequel Aragon a ce mot prodigieux quand il est photographié entre deux autres gros fauteuils, comme c'est un fauteuil un peu clinquant. Aragon dit, on aurait dit un gigolo entre deux gendarmes. Et d'autre part, le rapport qu'entretient Matisse, et c'est le même, semble-t-il, avec les modèles qu'il pose pour lui. Modèles qui sont aussi proches de lui que les objets. Enfin, les objets sont aussi traités avec respect par lui, au moins autant que
les
modèles.
Il les garde très longtemps. On retrouve dans beaucoup de peintures de Matisse les mêmes objets.
Et les mêmes objets, et souvent les mêmes modèles qui se poursuivent d'année en année. Et Aragon a une longue méditation et une longue réflexion où je pense que sa propre esthétique est en jeu là aussi, puisqu'il est fasciné par le fait que Matisse s'écarte du modèle, mais qu'il a besoin du modèle comme d'un tremplin. Et il me semble que dans le rapport qu'Aragon prétend entretenir avec ce qu'il appelle le réalisme, ce qui lui plaît aussi beaucoup chez Matisse, c'est que l'univers de Matisse est un univers qui ne quitte pas la figuration, mais pour lequel le rapport à la réalité n'est pas un rapport de ressemblance, mais un rapport de tremplin. Que le réel soit le tremplin de l'imaginaire, je crois que c'est ce qui vraiment intéresse Aragon et qui aide à mieux penser ce qu'il appelle lui-même le réalisme.
Ce serait presque un sujet de thèse. Qu'est-ce que Matisse a changé dans l'écriture d'Aragon? Vous croyez qu'il y aurait des choses à dire là-dessus?
Je ne sais pas jusqu'où il y a une dette. Je crois qu'il y a des rencontres. Il y a des appropriations, il y a des manières de tirer des fils, hein, parce que peut-être que les fils qu'Aragon tire sont quand même des fils très aragoniens aussi, mais qui éclairent en retour quelque chose de Matisse. Je crois que ce qui sans doute a pu travailler l'écriture d'Aragon, c'est d'être confronté à une certaine forme de pureté du trait, qui n'est pas sa première caractéristique. Je suis très frappé par le fait que à la limpidité matissienne répond, et répond jusqu'à l'excès délibérément dans Henri Matisse roman, la profusion aragonienne. Néanmoins, quand il cite Matisse, et il le cite avec l'écriture de Matisse, là la lettre est tout entière là, disant « mes boucles ne sont pas folles », j'ai toujours pensé que Matisse parlait de son dessin, mais qu'Aragon prenait aussi pour lui ses propres boucles syntaxiques.
Et la couleur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans les poèmes d'Aragon des explosions de couleurs comme il y en a, et aussi des explosions de joie colorée comme il y en a chez Matisse?
Je crois tout de même que « Ô moi des floraisons, moi des métamorphoses, mais qui fut sans soleil et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ce que le printemps dans ses plis a porté. » Les lilas et les roses ne sont pas colorés, mais il y a une telle puissance de ces métamorphoses dans cette strophe qui date de la poésie de la Résistance, qu'il y a effectivement, je crois, enfin j'ai le sentiment quand je le lis, qu'il y a dans la musique d'Aragon quelque chose d'une intensité parfois chromatique, généralement plutôt vers le rouge, comme par hasard.
Il y a quelque chose de très important dans la formation de Matisse, parce que Henri Matisse roman, c'est aussi un roman qui reprend un petit peu la biographie du grand peintre. Et ça doit vous rapprocher encore plus de lui, Olivier Barbaran, puisque c'est la relation que Aragon fait des visites que Matisse a faites au musée L'Écuyer à Saint-Quentin, qui est une ville que vous connaissez bien.
Oui.
Vous y avez été enseignant. Et donc, au musée de L'Écuyer, il allait voir Matisse les pastels de Quentin de la Tour, et il considérait que finalement, c'était une forme de bonheur qui était représentée là. Est-ce que vous les connaissez?
Oui, bien sûr. La visite, je crois que le musée de L'Écuyer n'était pas au même endroit qu'il occupe aujourd'hui. Je pense que quand Matisse l'a vu, c'est le même endroit que quand Barrès est venu justement fréquenter ses pastels. C'est très important pour Aragon, en tout cas il le mentionne en permanence. À part Matisse en France, c'est aussi Matisse du Cateau Cambrésis, hein, là où il y a la maison de Matisse qui se visite aujourd'hui et où je crois savoir que les œuvres d'Aragon consacrées à Matisse sont en bonne place aussi. Rien de plus éloigné d'une certaine façon du pastel, hein, avec son côté parfois un peu doux dans les couleurs, que l'art de Matisse dans l'étincellement, le jaillissement. Enfin, les pastels ne sont pas fauves et les pastels ne sont pas les papiers colorés avec lesquels il dessinera avec des ciseaux à la fin de sa vie. En revanche, que Matisse soit un homme du Nord ou que Matisse s'inscrive dans une tradition française, Aragon y insiste beaucoup et il joue, hein, dans son roman aussi d'opposition aussi simple que celle-ci, hein, c'est-à-dire l'homme du Nord au regard bleu à la recherche de la lumière, qu'il s'agisse de celle de la Méditerranée ou de Tahiti, l'homme aussi qui vient d'un terroir particulier et qui en même temps accède à un universel, l'homme qui est porteur de cette dimension aussi de l'intériorité, qui est peut-être l'intériorité des peintres du Nord, l'homme qui renvoie également à une mythologie aragonienne qui est celle de la Hollande. La Hollande par les objets, et on peut se demander si les objets qui sont plutôt orientaux, je trouve, chez Matisse. Hein, et Aragon le dit d'ailleurs, il parle d'un sultan, du sultan
comme
Matisse.
Les textiles, hein.
Oui, comme les textiles, comme le moucharabier, comme les découpeurs de couleurs, de lumière. Néanmoins, l'intériorité et la profusion, une certaine forme de confort luxueux me paraît assez nordique. Oui.
Merci beaucoup, Olivier Barbaran. Je rappelle que vous êtes poète, critique, essayiste, spécialiste de l'œuvre d'Aragon, dont vous avez édité les œuvres poétiques dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous êtes également inspecteur général de l'éducation nationale. Votre dernier recueil de poésie, Un grand instant, a été publié chez Champ Vallon en février dernier. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, nous poursuivrons notre exploration des écrivains qui regardent des peintres. Ce sera avec Tahar Benjelloun. Il nous parlera notamment de Giacometti. Il nous parlera donc aussi de sculpture. Mais pour l'heure, c'est le retour de la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Alors cette semaine, nous sommes en pleine nature avec Jean-Patrice Courtois.
Oui, je voulais vous dire, je comprends rien du tout, j'arrive pas à suivre, mais c'est normal, oui. Laissez infuser, disait Michaud, faites infuser davantage, suivez-moi, écoutez, pauvre nature, à propos des calories, etc. Théorème de la nature, Jean-Patrice Courtois, aux éditions Nous. L'expression fautive en tout de pauvre nature est faufilée dans tous les lieux adéquats de la tuyauterie nourrissante en énoncé hautement calorifique, pas trop gras, des journées salariées pourvues de sensations modules. La nature constitue intrinsèquement sa propre puissance affectée sans considération des quantités qui sont ce qu'elles sont. L'espèce au gros cerveau aime la quantité évaluable, affectant en service les usages tirés des composants terre, eau, air. Les lieux de la puissance exercée sont tellement partout qu'une fragilité introduite dans toutes les objectivités est devenue la sculpture elle-même. Le retour dans le même de la même absence d'idées rectrices s'avance et une direction s'accroît. Tiens, court poème. Le loup d'Abyssinie et la panthère des neiges n'ont rien à voir avec la raison esthétique. Le pétrole, plante fossilisée ayant fabriqué du glucose de son vivant, implique que depuis le glucose végétal, puissent se produire des dérivés du pétrole. Ah, je crois qu'il veut nous parler du bioéthanol. Ce n'est que l'imparable logique chimique. Les phénomènes dits naturels de la nature sont de hasard fort, c'est-à-dire de prédiction impossible, absolument. Le rebroussement unique de trajectoire joue l'arrangement moléculaire. Or, il est tard depuis longtemps. Oui, la chimie impossible du glucose ne refait pas les flores d'écorce et de bulbes telles qu'en leur site les aura formées l'espace des lieux. Les poètes sont toujours nostalgiques, qu'ils s'y prennent par la science ou par la promenade, ils sont toujours nostalgiques. Tiens, je trouve ça. Longtemps, la chimie s'est couchée de bonne heure. L'eau, couleur de chimie, ignore la colère et connaît la confusion de la matière et du matériau. Même pour le poème, le rassemblement de la totalité des faces déchettes de l'eau ne se surmonte pas par l'hypothèse d'une totalité disponible des métaphores. La vitesse des constitutions lentes et incoactives des brouillons marins, qui s'écrivent 24 heures tous les jours, se situe au-delà des enregistrements. Métalliser les océans promeut un temps spécial des siècles où nage, bouche d'un nombre s'avalant lui-même, les liquides rétroactifs. L'environnement d'eau morte des mots nôtres s'étend en grand. Je dis, il adore la musique. L'environnement d'eau morte des mots nôtres s'étend en grand.
Merci Jacques Bonafé.